Aujourd'hui, on entame une exploration au cœur des sources qui est un peu particulière. C'est presque tactile, en fait. On a tellement l'habitude d'étudier l'histoire avec de grands traités politiques ou des découvertes archéologiques monumentales. Mais pour cette plongée temporelle, on va utiliser un support beaucoup plus modeste.
Ouais, un support presque jetable à l'origine, en fait.
Exactement. La bonne vieille carte postale. Et l'objectif, c'est de retracer les mille et une vies d'une ville fascinante, Milou.
C'est un angle d'approche redoutablement efficace. La carte postale, loin d'être juste un petit bout de carton envoyé pour les vacances, ça fige vraiment une époque. Ça capture l'architecture, bien sûr, mais aussi les métiers disparus, les rassemblements populaires. Mais bon, pour mener cette analyse, on a une contrainte très stricte à laquelle on va se tenir.
Oui, c'est super important de le préciser pour ceux qui nous écoutent. Notre analyse se concentre exclusivement sur une source unique. C'est le bulletin numéro 27 du Carto Club Aveyronnais,
publié en septembre 2005.
C'est ça. Et plus spécifiquement encore, on n'abordera que leur dossier spécial Millau, capitale des Grands Causses.
Un dossier qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. D'autant qu'il faut souligner le travail colossal derrière cette publication. L'auteur de cet article de fond, Pierre Costecalde, a réalisé un bourreau de recherche historique impressionnant.
Ah oui, Pierre Costecalde a fait un travail de fourmi.
Tout à fait. Mais ce texte, il prend vraiment toute son ampleur grâce à la conception visuelle du document. Il faut saluer Guy Mazard, qui est cité comme le rédacteur en chef, et le concepteur de la mise en page. Mettre en résonance de vieux textes avec des fragments photographiques d'époque, ça demande une vraie vision éditoriale.
On le ressent d'ailleurs dès les premières pages. Ça nous ramène bien avant l'invention de la photo. On commence par l'histoire profonde. L'analyse de Costecalde remonte à, écoutez bien, 50 000 ans en arrière pour retracer les premières traces de présence humaine sur les hauteurs de Millau.
Et là, on réalise que le site n'a pas été choisi au hasard. Le document détaille l'existence d'habitats troglodytiques.
Donc des grottes.
Voilà, pour visualiser la chose, c'est des abris et des habitations creusées directement dans la roche des falaises autour. Ça offrait une protection naturelle évidente. On y trouve aussi des sépultures qui datent d'environ 3000 ans avant notre ère. En fait, la topographie a littéralement dicté l'installation humaine.
Je me demande d'ailleurs comment on passe de ces abris sous roche à une véritable puissance économique régionale. Parce que le premier âge d'or de la ville, c'est l'époque romaine. Elle s'appelait alors Condato Magus. C'était situé au confluent du Tarn et de la Dourbie.
Oui, et là, grosse surprise. C'était pas juste une petite bourgade administrative perdue, c'était un centre de production industrielle massif. On y fabriquait la fameuse vaisselle sigillée rouge.
La vaisselle sigillée, oui. C'est fascinant, ça.
Ah, c'est un phénomène incroyable. Le terme sigillé, ça vient du latin sigillum, qui veut dire sceau. C'est une céramique d'un rouge très vif, souvent vernissé, décorée avec des motifs en relief qu'on obtenait en pressant l'argile dans des moules.
Donc c'était un peu la vaisselle de luxe standardisée de l'Antiquité, quoi.
Exactement. Une vraie marque de fabrique reconnaissable entre mille. Et la situation de Condato Magus, avec l'argile locale, l'eau des rivières, et sa position sur la voie romaine entre l'actuelle Rodez et l'Odève, ça en a fait une plaque tournante.
Et la portée de cette exportation, ça donne le vertige. Le dossier explique qu'on a retrouvé des assiettes fabriquées à Millau sur des tables en Germanie, en Grande-Bretagne, en Espagne et même en Afrique du Nord au 1er siècle.
Des réseaux commerciaux d'une complexité inouïe pour l'époque. Mais bon, la géographie finit toujours par imposer ses règles. Vers la fin du 3e siècle, la ville primitive est abandonnée et elle se déplace sur la rive droite du Tarn.
Et ce glissement géographique, il s'accompagne d'une mutation du nom qui est super intéressante. Condato Magus disparaît et ça devient Amelia Vens.
Et avec le temps, la langue romane fait son œuvre. Ça donne Amilio, puis Miliavi, pour finalement se stabiliser sur Millau. Les racines de ce nom proviennent de la famille du mot Mediolanum, qui désigne littéralement la ville au milieu de la plaine.
Au milieu de la plaine, oui, mais surtout encerclée par un écrin naturel monumental. La ville est complètement dominée par le plateau du Larzac et le Cosmoir.
C'est une sorte de cuvette gigantesque.
C'est ça. Et c'est précisément là que le dossier photographique de Guy Mazard frappe un grand coup. Il met en avant un exploit technique fou de la belle époque, juste à travers des cartes postales.
Les photographes du début du XXe siècle, ils avaient bien compris que pour saisir l'essence de Millau, il fallait absolument capturer cet enfermement protecteur des Causses.
Et ils ont réalisé ce panorama incroyable. C'est cité dans le dossier sous le nom de « Panorama de Millau, vue prise du beffroi numéro V et V ». Concrètement, les photographes ont monté leur matériel hyper lourd sur trépied tout en haut du beffroi.
Et ils ont pris 8 clichés successifs en tournant l'objectif à chaque fois.
C'est ça. À l'impression, le bord droit de la première carte s'aligne au millimètre près avec le bord gauche de la deuxième, et ainsi de suite. La huitième carte vient fermer le cercle avec la première. Un vrai panorama à 360 degrés en format papier.
Quand on y pense, aujourd'hui, nos smartphones font ça numériquement en 3 secondes.
Mais là, aligner des tirages cartonnés, gérer les expositions pour que le ciel ait la même teinte sur 8 photos différentes, c'est un travail d'orfèvre.
Et cette prouesse technique n'est pas gratuite. Elle permet de démontrer visuellement l'argument central de l'article. Millau est la capitale des grands causes parce qu'elle est physiquement définie par eux. Les montagnes, c'est pas un joli arrière-plan, c'est le mur d'enceinte naturel de la ville.
Il se dégage des textes et des images, ça évoque vraiment le sud. L'auteur cite un dicton local qui qualifie Millau de « midi moins le quart ».
On visualise très bien les grandes avenues avec les platanes, les toits en tuiles romaines, les façades claires.
Oui, le centre ancien s'étend sur une vingtaine d'hectares et porte les marques de toutes les époques. Prenons le beffroi, par exemple, d'où a été pris le panorama. Sa structure même, c'est une chronologie empilée.
Totalement. Une tour carrée de style roman à la base, surmontée d'une tour octogonale ajoutée au XVIIIe siècle, l'ensemble culmine quand même à 42 mètres de haut.
Et à l'origine, cette base romaine, c'était une partie de la forteresse des premiers vicomtes de Millau.
Elle a eu une fonction militaire de guet, puis elle a été transformée en prison jusqu'en 1825. L'architecture carcérale ou défensive qui trône comme ça au milieu des habitations, ça rappelle constamment la présence de l'autorité.
C'est un trait commun aux villes de cette importance. Tout comme l'hôtel Pegairols, une bâtisse du XVIIIe qui est passée de résidence parlementaire à hôtel de ville, puis à musée.
Le pouvoir laisse toujours son empreinte dans la pierre, c'est certain.
Et en parlant de la pierre et de l'autorité, la place Maréchal Foch est sans doute le lieu le plus symbolique. Anciennement appelée la place d'armes, c'est vraiment le cœur commerçant et politique de Millau.
Les cartes postales de cette place sont nombreuses dans le dossier.
Oui, on y voit la vieille colonnade de la place de l'hôtel de ville, ou encore la carte sobrement intitulée « Les Halles ». Et ces halles méritent une mention. Inaugurées en 1899 à la place des anciennes halles au grain, elles sont d'un pur style baltard.
Le style baltard, ça marque vraiment l'entrée des villes de province dans la modernité industrielle. Pour s'en faire une idée, c'est ces grandes structures très aérées qui combinent une charpente métallique apparente, en fer ou en fonte, de larges verrières et parfois des briques.
Une architecture qui privilégie la lumière et l'hygiène.
C'est ça, typique de la fin du 19e siècle, un peu à l'image des anciens pavillons des halles de Paris.
La modernité d'un côté et de l'autre, les vestiges d'une justice implacable. Au pied d'une des colonnes, de cette même place, le dossier pointe un pilori en pierre noire.
Ah oui, le fameux pilori.
Avec cette inscription gravée en occitan qui a de quoi refroidir n'importe quel voleur de marché. Gara que fera. Attention à ce que tu feras.
La présence de ce pilori en plein cœur de l'espace marchand, ça souligne vraiment la rudesse de l'organisation sociale passée. La place publique, c'était pas seulement un lieu d'échange économique, c'était le théâtre de la honte et de la punition.
La pierre noire, la devise menaçante, tout était pensé pour le contrôle social direct.
Bien avant l'avènement des systèmes judiciaires modernes, en effet.
Heureusement, la place offre aussi des anecdotes beaucoup plus légères. Le dossier s'attarde sur une fontaine de style empire située au milieu de la place. On la voit super bien sur la carte postale. Place de l'hôtel de ville, fontaine empire et tour du Beaufroy.
Et la mémoire locale l'a toujours appelée la fontaine des lions.
Sauf que Costecalde souligne un détail anatomique très drôle. Il n'y a absolument aucun lion sur ce monument. Il est orné de 8 griffons en bronze.
C'est génial. Le fait que toute une communauté appelle un monument par un nom erroné pendant des décennies, ça en dit long sur la façon dont l'histoire se transmet.
Quelqu'un a dû dire les lions une fois et l'habitude a complètement balayé l'observation réelle.
C'est l'illustration parfaite d'une mémoire collective qui s'approprie son environnement d'une manière presque poétique. Sans se soucier de l'exactitude zoologique ou architecturale.
Ce sont ces petits décalages qui donnent une âme à une ville. Et c'est ce qui nous amène à la partie peut-être la plus touchante de cette analyse.
Parce que les cartes postales sélectionnées ne se contentent pas de documenter des bâtiments froids.
Non, elles sont peuplées de figures humaines très spécifiques. Alors la ville a bien sûr enfanté des célébrités reconnues comme Emma Calvé, la cantatrice qui a conquis les scènes d'opéra mondiale et qui repose à Milou. Mais l'auteur a fait le choix délibéré de mettre en lumière ce qu'il appelle les célébrités populaires.
Et ça, c'est un changement de paradigme fondamental dans la façon de documenter l'histoire. À l'époque de ces cartes, la photo coûtait cher. Le matériel, les plaques de verre, le temps de pose.
Choisir de photographier non pas le préfet ou l'évêque, mais des marginaux ou de petits travailleurs, ça prouve que ces individus étaient perçus comme essentiels à l'identité de Millau.
Ils incarnaient le caractère de la ville.
La galerie de portraits est remarquable d'ailleurs. On découvre Gardette, le fils de coutelier, qui cumulait deux métiers, disons, improbables, gardien de cochons et ramasseur de chiens errants. On imagine assez facilement l'odeur et le chaos sonore qui devaient l'accompagner.
Et il y avait aussi Tomate.
Ah oui, Tomate, le crieur public. Le dossier raconte que sa voix était d'une puissance telle qu'il était devenu l'animateur incontournable des kines.
Les grands lotos traditionnels de la région.
C'est ça. Et on croise aussi le tapis d'Wall, une figure nocturne connue pour sa maîtrise absolue de la pêche aux écrevisses.
En figeant ces hommes sur du carton, les éditeurs de cartes postales de l'époque ont créé, sans doute sans s'en rendre compte, une archive précieuse de la classe ouvrière et des petits métiers disparus.
Millau était une immense ruche industrielle à ce moment-là, dominée par la ganterie qui employait des milliers de mains.
Et ces figures populaires comme Tomate ou Gardette offraient un vrai lien social, une familiarité rassurante dans un quotidien souvent rude.
Un quotidien rude, mais visiblement très tourné vers la fête aussi. Le bulletin évoque le feu de la Saint-Jean, traditionnellement célébré au rivage de Curplat, au bord de l'eau. Les jeunes ouvriers et ouvrières s'y retrouvaient pour sauter au-dessus des flammes.
Mais ce sens de la communauté, il se manifestait aussi dans les épreuves. Le dossier met en avant un fait historique très précis. Millau a été la première ville de l'Aveyron à ériger un monument aux morts après la guerre de 1870-1871.
Cette rapidité à organiser le souvenir collectif, ça témoigne d'une sacrée conscience civique. La guerre franco-prussienne a été un traumatisme national et voir une ville de province s'organiser financièrement et politiquement pour ériger cette stèle, ça prouve une volonté d'ancrer le sacrifice dans le marbre.
Le contraste est d'ailleurs fascinant quand on tourne les pages du dossier. On passe de la solennité de la carte « Monument commémoratif 1870-71 » à l'effervescence d'une autre carte.
Celle des fêtes d'aviation et de la mutualité, 6, 7 et 8 mai 1911. Cette image est un festival de détails. On y voit une foule dense, des hommes en canotier, des femmes en longues robes claires, tous agglutinés autour d'un char somptueux recouvert de fleurs.
On y célèbre la mutualité, la solidarité ouvrière et surtout l'aviation naissante.
On sent une ville tendue vers le progrès, vers la nouveauté technologique.
L'arrivée du chemin de fer, porté par la Compagnie du Midi, a profondément désenclavé la région.
Et ce train n'apportait plus seulement des marchandises ou des matières premières pour la ganterie. Il apportait un nouveau type de population, les touristes.
La ville devient peu à peu la rampe de lancement pour l'exploration des gorges du Tarn, de la vallée de la Dourbie ou de la Jonte.
Des excursions en autocar commencent à s'organiser depuis la place du Mandarou. C'est un bouleversement complet. Millau, la ville besogneuse aux milliers de petites mains qui coupaient et cousaient le cuir, commence à vendre ses paysages.
Et ce qui est particulièrement perspicace dans la lecture de Pierre Costecalde, c'est l'analyse de cette transition économique. Lorsque l'industrie gantière a commencé à décliner face à la mondialisation et au changement de mode, la ville a regardé sa topographie.
Celle-là même qui l'isolait autrefois.
Exactement. Ces causses abruptes, ces vents tourbillonnants au-dessus des corniches, ce vide impressionnant, tout cela a été reconverti. Le relief est devenu le capital de la ville.
La confrontation visuelle dans le bulletin est frappante à ce sujet. D'un côté, on nous présente une carte postale des années 60, intitulée « La cité du Gant, Aveyron, moisson à l'ancienne sur les penchants du causse du Larzac ».
Une image qui montre des bœufs imposants tirant une charrue, un paysan au travail, la terre aride. C'est le monde agricole lent et laborieux.
Et la page suivante propose la carte Delta Plaine sur les penchants du Larzac. De grandes ailes aux couleurs criardes, prêtes à s'élancer dans le vide, avec des sportifs harnachés. Le contraste entre le palourd du bœuf et le vol coloré du deltaplaine résume à lui seul un siècle d'évolution.
Ce pivot vers l'adrénaline et le dépassement de soi a été radical. Le dossier souligne que, dès 1972, Millau lance l'épreuve des 100 km de Millau.
100 km de course à pied en une seule traite.
C'était la toute première compétition de grand fond de ce type en France.
Il faut imaginer l'audace, en 1972, d'organiser une course équivalente à 2,5 marathons, à une époque où le footing n'était absolument pas un phénomène de masse.
Et ce goût pour la performance extrême s'est institutionnalisé. La ville a attiré le tout premier championnat du monde d'ULM en 1985, puis le premier championnat du monde de vol libre féminin en 1987. Escalade, canyoning, parapente, la géographie a vraiment dicté cette reconversion.
Il faut aussi mentionner que cette compétition prend parfois des formes moins extrêmes physiquement, mais tout aussi intenses culturellement.
Tu penses à la pétanque ?
Oui. Les cartes postales illustrent très bien le mondial de pétanque de Millau, montrant des foules colossales sous le solage du mois d'août. L'espace public, autrefois occupé par les marchés aux bestiaux ou le pilori, devient un immense terrain de jeu et d'affrontements pacifiques.
La ville démontre une résilience remarquable, trouvant sans cesse de nouvelles façons de faire communauté.
En fin de compte, quand on s'y penche, parcourir ce dossier spécial de 2005 modifie la façon dont on perçoit les villes qui nous entourent. En utilisant les cartes postales, le bulletin nous force à observer les strates du passé.
On part de potiers romains qui inondent l'Europe de vaisselle sigillée.
On passe par l'austérité d'une justice de pierre noire sur la place du marché.
On s'amuse des cris d'un ramasseur de chiens sur la place publique.
Et on finit par des parachutistes sautant des corniches.
Le support choisi pour l'étude et l'enseignement principal de cette analyse, la carte postale s'avère être une machine à remonter le temps accidentelle, mais d'une précision redoutable.
Les éditeurs voulaient vendre de jolis souvenirs ou des images pittoresques, mais ils ont documenté sans le vouloir l'extinction d'un monde agricole, l'apogée industrielle et la naissance de la société des loisirs.
C'est une archive sociologique d'une richesse inestimable, construite par des milliers de photographes anonymes.
Et cela pousse à une réflexion presque vertigineuse pour notre auditoire. Si des chercheurs comme Pierre Postecalde et des passionnés de la mise en page comme Guy Mazars ont pu reconstituer la psychologie et l'évolution d'une ville grâce à de vieux bouts de carton, que se passera-t-il dans un siècle ?
C'est une excellente question.
Imaginons des historiens du 22e siècle se penchant sur nos cartes postales contemporaines, nos publications éphémères sur les réseaux sociaux, nos photos géolocalisées, nos filtres numériques, en inondant le web de clichés banals de nos rues, de nos cafés ou de nos voisins, qui sera le Tomatea ou le Gardette de demain ?
Quel détail d'apparence triviale sur nos images deviendra la preuve irréfutable de la façon dont nous vivions, bien après que nous ayons oublié pourquoi nous avions pris cette photo ?
La trace que nous laissons est peut-être la plus précise de l'histoire humaine. Mais savons-nous seulement ce qu'elle raconte de nous ? C'est sur cette pensée qu'on vous laisse méditer aujourd'hui.